Now if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it now. Let's get started now. Let's get started now. Ooh, now. Ooh, now. Ooh,
now. Well, nothing could be plainer than the things that have been done. To come. It's now that howls at nothing. It's now that runs and hides. It's now that winds its spineless coils and slithers out of sight. It cries above the furrow. Draw my fingers like a plow. To tattered ends, the twist and bend about the here and now. The here is blind and helpless and strives against the dark. The now's the well that shadows where the world has come apart.
À tous nos auditeurs, vous écoutez Jeudi Noir, donc sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous venez d'entendre un morceau de No Means No, C'est mon groupe préféré, vous l'avez déjà entendu il y a deux semaines, pas ce morceau-ci, ce groupe. C'est un morceau qui s'intitule Now et qui est extrait de l'album 0 plus 2 égale 1, sorti en 1991 chez Alternative Tentacles. Donc pour les connaisseurs, c'était le label, enfin c'est le label de Jello Biafra, l'ancien chanteur des Dead Kennedys. Voilà, donc c'est Michel qui vous parle, avec en face de moi le digne, l'infâme Jean-Mathias.
Bonsoir à tous.
Qui est en carton, paraît-il. Je n'ai pas bien compris le sens de cette assertion.
Je suis pas le seul ce soir.
Voilà, à la technique, comme la dernière fois, José. Voilà, dont vous avez pu entendre les talents musicaux grâce au petit jingle qui précédait No Means No. Alors, donc, Jeudi Noir, nous sommes à notre deuxième édition, c'est une nouvelle émission. Et donc, nous allons vous parler de livres. Les livres que nous aimons essentiellement, donc c'est assez subjectif et arbitraire, comme j'avais déjà pu le dire. Et ce soir, nous en avons sélectionné deux. Alors pour ma part, je vous parlerai d'un livre de Charlotte Lacoste qui s'intitule « Séduction du bourreau », qui a été publié en 2010 au PUF, aux Presses universitaires de France. Donc c'est un assez gros pavé de 500 pages, mais je le trouve assez intéressant. Quant à Jean-Mathias, tu veux parler de quoi toi ?
Eh bien moi j'avais envie de parler d'un livre de Christine Ross qui s'appelle « Mai 68 et ses vies ultérieures ». C'est un livre qui est paru en 2010 aux éditions Lagone. Et voilà, qui m'a paru bien intéressant également. Et puis je voudrais dire un petit mot aussi en fin d'émission sur une revue papier fort sympathique qui s'appelle Article 11.
Voilà, donc je vais commencer tout de suite à vous parler du livre donc, de Charlotte Lacoste, Séduction du bourreau. À l'origine, c'est une thèse. Et cette thèse part d'un phénomène de mode dont certains d'entre vous ont pu prendre conscience, j'imagine. C'est la littérature consacrée finalement, enfin la littérature consacrée au massacre de masse, mais envisagée du point de vue du bourreau. Il y a quelques années, c'était le grand succès des Bienveillants de Jonathan Little qui signalait le plus cette mode. Mais il y a aussi beaucoup d'autres entre guillemets témoignages d'anciens bourreaux comme Aos Arès, par exemple, tortionnaire en Algérie. Et Charlotte Lacoste s'interroge finalement, elle se demande pourquoi la littérature envisagée du point de vue du bourreau, ou le témoignage envisagé du point de vue du bourreau, est-il devenu si à la mode, et a-t-il d'une certaine manière recouvert la littérature de témoignage qui a été écrite par des rescapés, type Primo Levi, Robert Antelme, et quelques autres. Et elle pense que c'est pas un phénomène innocent et que derrière les bonnes intentions de tous ceux qui se placent du point de vue du bourreau, et malgré éventuellement leurs bonnes intentions, il y a un glissement qui n'est pas du tout sans danger.
Pourtant, c'est une position qui est quand même plus confortable.
Évidemment. On est beaucoup mieux à torturer qu'à se faire torturer, mais
je sais pas non plus,
mais bon, en tout cas, on souffre moins sans doute. Et mais c'est justement c'est une des choses que dit Lacoste, que dit l'auteur, c'est que du point de vue de l'identification, c'est peut-être d'une certaine manière plus jouissif, d'une manière assez perverse, de s'identifier au bourreau que d'identifier à cette pauvre victime qui, après tout, on n'en est qu'une victime.
Tu veux donc nous parler d'une littérature de pervers ?
Évidemment. Donc, mais en même temps, c'est une littérature de. Je vais vous parler d'une littérature de pervers, mais c'est pour en dire du mal. Donc l'honneur et la morale sont saufs. Je pense qu'on peut se réjouir.
C'est essentiel.
Parce que le sous-titre de Séduction du bourreau, c'est Négation des victimes. Tadam. Et là, ça t'embouche un coin.
Ça m'embouche un coin.
Voilà, petit cynique que tu es. Alors. Si je reprends un petit peu le livre, donc qui est un livre assez riche, oui, je vous ai dit 452 pages, effectivement, c'est pas 500, mais c'est quand même pas mal. Alors, finalement, de quoi part-elle ? Elle part des débuts de la littérature de témoignage. C'est-à-dire, quand est-ce que le témoignage, pourrait-on dire, quitte le prétoire, quitte le poste de police, voilà, je viens témoigner, pour entrer en littérature ? Alors, bien sûr, la notion de témoignage est extrêmement vague. Tout témoigne de quelque chose, de quelqu'un, ou ainsi de suite. Mais elle assigne à la littérature de témoignage une origine assez précise, et qui est assez intéressante pour son propos. C'est le retour, finalement, des poilus de la guerre de 14-18, et le fait que beaucoup d'entre eux vont se mettre à écrire et à raconter l'expérience de leur guerre, de la guerre de 14-18, mais de leur guerre, parce qu'ils la racontent toujours de leur point de vue. Ils ne parlent pas de la guerre, ils parlent de la guerre qu'ils ont vécue. Et pourquoi tant de poilus ont écrit sur cette guerre ? Non seulement parce qu'elle était atroce, mais aussi parce que beaucoup d'entre eux, finalement, n'étaient pas du tout préparés à la réalité de la guerre. c'est des témoignages qu'elle cite justement au début de son livre, c'est qu'ils avaient l'impression, ils ne connaissaient la guerre que par des images d'Épinal, que par la littérature homérique, et la guerre était toujours quelque chose d'exaltant dans la littérature, quelque chose de, où on pouvait trouver une mort héroïque, des victoires décisives, des sentiments exaltants, ce genre de choses. Et quand les soldats de la guerre de 14-18 arrivent sur le front, ils sont extrêmement déçus, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la guerre est finalement ennuyeuse, sale, effrayante et totalement inintéressante. Et ils s'imaginaient voler de victoire en victoire, et finalement, ils pataugent les pieds dans la boue en attendant des futurs obus qui ne seront pas forcément allemands de surcroît. Et donc, beaucoup de poilus vont se mettre à écrire sur leur expérience de guerre au retour de cette boucherie. Et la difficulté, c'est qu'immédiatement, leur discours, et même finalement avant la fin de la guerre, est recouvert de nouveau par une espèce de discours patriotique ou pacifiste. Mais ce qui est assez curieux, c'est que pour pas mal de poilus, d'une certaine manière, c'est presque la même chose. C'est-à-dire c'est un discours qui, pour des motifs plus ou moins idéologiques, ne va pas être vrai sur la guerre. Et qui va jouer sur des ressorts spectaculaires. Par exemple, dans la littérature patriotique, ça c'est facile à imaginer, hein, mais c'est beaucoup plus difficile à imaginer dans la littérature pacifiste. Mais quelqu'un comme Barbusse, par exemple, a été dénoncé par pas mal de poilus parce qu'il ne cessait de décrire des charges à la baïonnette que la plupart des poilus n'ont pas connu. Et Barbusse, dans un but pacifiste, condamner la guerre, finalement, l'a transformé en une espèce de boucherie innommable, en faisant de longues descriptions des cadavres disséminés en petits bouts dans les arbres, ce genre de choses. Et pour les poilus, c'était pas de la littérature, c'était pas un vrai témoignage. Parce que c'était pas la guerre que eux avaient pu voir, pour tout un tas de raisons. Déjà, quand on prend des obus sur la tête, on n'a pas forcément le temps de regarder comment ses amis volent en éclats. Et puis, une fois qu'ils ont volé en éclats, on n'a pas forcément envie de regarder les restes.
Tu veux dire que d'après elle, ça veut dire que le témoignage qui est motivé donc par la Grande Guerre, c'est l'idée en fait d'éviter tout ce qui vient comme discours après, soit effectivement patriotique, soit effectivement antipatriotique ou pacifiste, mais qui en quelque sorte viennent appliquer après coup des espèces d'interprétations ou des manières de dire, des styles en fait de parler de la guerre qui manqueraient. Les uns comme les autres, ce qui fait la singularité de l'expérience de la guerre pour quelqu'un, pour un individu en fait.
Oui.
Et que le témoignage
tout
émerge
à fait.
Dans ce projet-là.
Le témoignage, c'est le projet finalement de dire la vérité sur la guerre. Enfin, okay. De dire la vérité sur la guerre qu'on a vécue, sur l'expérience de la guerre qu'on a traversée. Et justement, pour détruire toute cette imagerie de la guerre. Parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la dénonciation pacifiste, comme dans l'exaltation patriotique de la guerre, il y a une mise en spectacle, finalement, de cette guerre. Donc un spectacle plus ou moins ragoûtant, mais un spectacle. Alors que ce qu'ont vécu beaucoup de poilus, c'était pas ça. La guerre, c'était aussi les longues heures d'ennui passées à ne rien faire, à attendre la mort, au milieu des rats et de la boue, ou du froid. Donc c'est là que va naître finalement le projet littéraire de témoignage, enfin d'après elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette littérature de témoignage va être, comme je vous le disais, ne rencontrera aucun succès public, et va être aussitôt recouverte par des grandes œuvres spectaculaires. Alors pourquoi est-ce que ça intéresse Charlotte Lacoste, donc son livre Séduction du bourreau? C'est qu'elle remarque que la même mécanique va jouer après la Seconde Guerre mondiale à l'égard des écrits des rescapés des camps de concentration. Pour vous donner un simple exemple, elle affirme que le livre de Primo Levi, Si c'est un homme, s'est vendu, je crois, à 2000 exemplaires lors de sa première édition, dans les 10 premières années, suivant les 10 premières années de cette publication. Et en même temps, il y avait aussi tout un tas de livres, nettement plus spectaculaires, nettement plus entraînants, nettement plus héroïques, sur cette guerre qui se vendait. Et donc là encore, on voit que le témoignage de la victime qui dit la vérité, finalement, est mal reçu des éditeurs, se vend mal.
Et est-ce qu'elle avance des hypothèses? Est-ce que c'est lié au fait que ce soit des sujets particulièrement atroces ou des expériences de barbarie particulières ou des choses qui effectivement dépassent l'entendement ou qui soient illisibles au sens littéral du terme? Pourquoi ce recouvrement sur ce type de sujet-là précisément?
Elle pense au contraire que c'est pas parce que c'est écrit trop simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout de la littérature entraînante, c'est pas beau. On peut rendre l'horreur belle avec un peu de style. Et la plupart des témoins, justement, ne revendiquent pas le style. J'ai rendu l'écriture la plus plate possible pour essayer de, si tant est que ce soit possible, coller le plus possible à la réalité. Mais c'est dans cette configuration-là, alors je passe beaucoup de détails parce qu'elle analyse ça très précisément, que peut naître finalement l'idée du bourreau comme témoin. Alors c'est ça le cœur de son livre et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'elle va dire, voilà, comment se justifie cette littérature du bourreau. Parce que bon, je ne sais pas si vous avez lu le pavé de Jonathan Little qui fait 700 pages et qui est assez imbuvable, je l'ai lu moi, c'est martyr. Mais
c'est long.
C'est long et c'est chiant. Mais si vous voulez, c'est écrit à la première personne. Donc il n'y a aucune distance finalement avec le nazi qui prétend témoigner. D'accord. Et sur quoi donc on peut justifier finalement de mettre en scène à la première personne un nazi, de le héroïser finalement. Et donc Charlotte Lacoste démonte le raisonnement qu'il y a derrière, enfin elle le démonte, il est souvent exposé je crois, mais elle va aussi le démonter plus tard. Et l'idée c'est, nous sommes tous des bourreaux, enfin ou du moins les bourreaux sont tous des hommes ordinaires, or les hommes ordinaires c'est nous, donc nous sommes tous des bourreaux en puissance. Et l'idée de cette littérature-là, ce serait de concentrer le regard sur le bourreau. Pourquoi ? Pour nous aider à prendre conscience de nos potentialités de bourreau. Voilà. Et ce qui fait que la question qui hantait la littérature du XXe siècle, est-ce que j'aurais parlé sous la torture, devient, finalement, est-ce que j'aurais tué si on l'avait ordonné ? Alors, ça peut sembler assez intéressant, pour se pencher sur...
C'est pas complètement dénué d'intérêt comme question.
Après, il faut voir aussi le traitement qui en est fait. Et c'est ça qui va l'intéresser. Alors, parce que d'une part, ça va amener à dépolitiser la question du mal, à la naturaliser. C'est-à-dire, l'homme serait naturellement mauvais.
Oui, il y aurait en nous, en chacun d'entre nous, un bourreau potentiel qui s'ignore.
Voilà. Donc, on fait l'impasse complètement sur la question de la propagande, sur la question de... L'absence d'éducation politique, des raisons essentielles pour lesquelles les gens finalement deviennent des bourreaux ou pas. Et puis on fait aussi l'impasse très souvent sur les gens qui ont résisté, qui ne sont pas devenus des bourreaux. Et à son avis, d'une certaine manière, en prenant en plus la perspective de la première personne, le bourreau qui parle, on est forcé mécaniquement de justifier plus ou moins ses actes. Justement en ramenant le bourreau à la norme. En gros, le bourreau qui va vous regarder droit dans les yeux et qui va vous dire « Oui, j'ai tué, j'ai torturé, j'ai fait tout ça, mais vous auriez-vous fait mieux ?» Comme si on était tous, finalement, appelés à être des bourreaux. Et je trouve que, de ce point de vue-là, elle n'a pas tout à fait tort. Enfin, c'est vrai que c'est une littérature qui est ambiguë, pour le moins. Alors ensuite, elle conteste radicalement l'idée qu'on puisse apprendre quoi que ce soit sur les massacres de masse en lisant la littérature des bourreaux. En se fondant sur quelques témoignages réels, qui sont tous plus ou moins caviardés, censurés, anonymés. Justement, et c'est tout le contraire de la littérature de témoignages des rescapés ou des poilus.
Mais alors, dans le cas que tu prends, alors je ne sais pas si elle le développe particulièrement sur les bienveillantes, mais il me semble que c'est pas, enfin c'est une fiction précisément, c'est pas un témoignage authentique.
Tout à
donc,
fait.
Dans ce cas-là, on a autre chose.
Ben, elle s'intéresse justement aux deux niveaux.
D'accord.
Mais justement, le problème de la fiction, c'est que elle pense que la fiction, dans ce cas-là, est une façon aussi d'héroïser le bourreau.
D'accord.
Parce que le bourreau nous sera toujours présenté sous la forme d'un personnage extrêmement cultivé. Extrêmement intelligent, une espèce de surhomme, et c'est dans les bienveillantes, c'est très vrai. Je pense que c'est le bouquin qu'elle vise, mais pour le coup, c'est radicalement vrai. C'est une espèce, voilà, il est tout.
C'est la figure du nazi sophistiqué, raffiné, voilà. dans la culture comme dans le comme l'horreur, quoi.
Oui, exactement. Ouais. Comme on a pu nous faire chier avec le tueur en série cultivé, un peu de choses près, en oubliant tous les tueurs en série qui étaient complètement demeurés, mais Et en plus, cette figure du nazi cultivé va aussi apporter, d'autres choses avec elle. Elle va charrier d'autres choses avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas se défendre contre la barbarie avec la culture ou avec l'intelligence. Et qu'au contraire, il faudrait presque se méfier de la culture et de l'intelligence si on veut pas devenir un bourreau.
D'accord.
Oui. Et ça s'appuie aussi sur les études de Milgram, complètement faussées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça.
On rappelle peut-être en deux mots de quoi il s'agit.
Milgram, donc c'est un sociologue qui a fait, je crois, qui a fait une expérience.
Psychologue,
de résistance à l'autorité, où il demandait aux gens, à des volontaires, de poser des questions à quelqu'un qui était soi-disant aussi volontaire, qui en fait était un acteur. Et chaque fois que cette personne répondait mal aux questions, celui qui questionnait était supposé envoyer une décharge électrique. Mmh. Et plus les réponses étaient mauvaises, ou plus il y avait de mauvaises réponses, plus les décharges électriques étaient fortes. Et donc Milgram, lui, a voulu essayer de tester la résistance à l'autorité.
Mmh. Sachant que donc, l'expérience en fait, se développait en milieu soi-disant scientifique, avec quelqu'un en blouse blanche, dans un laboratoire, dans des locaux très aseptisés, etc. Le tout pour, avec tous les symboles en fait, de l'autorité du scientifique. Quoi. Et l'idée, c'est qu'effectivement, le scientifique amène des individus normaux à envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes à des types qu'ils ne connaissent pas et qui sont en phase 2, et qui, effectivement, présentent tous les symptômes de l'électrocuté. En fait.
Ouais. Donc, on nous présente souvent cette expérience, finalement, comme démontrant que les gens ne résistent pas à l'autorité.
Sachant, juste pour terminer sur le dispositif, que ce soit bien clair, c'est qu'en fait, il n'y a pas de décharge électrique, mais que les résultats de l'expérience ont montré que la plupart des gens étaient prêts à électrocuter leurs semblables sur injonction d'un psychologue en blouse blanche, à des doses parfaitement terrifiantes.
Justement, pas tant que ça, en fait.
Hein? Ok, c'est comme ça que c'est la plupart du temps.
C'est comme ça que c'est proposé l'expérience de Milgram. Non, en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la plupart des gens ont résisté.
D'accord.
C'est
plutôt rassurant.
Ce qui est plutôt très rassurant. Ouais. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ceux qui ont résisté, c'est en règle générale ceux qui avaient certaines valeurs culturelles.
D'accord. Ouais, ce qui est à l'encontre de la figure du bourreau cultivé.
Exactement. Mmh. Un des types qui est allé le plus loin dans l'électrocution factice du cobaye, c'était un ouvrier qui avait adoré l'armée.
Ah.
Il s'était éclaté à l'armée, il adorait obéir, il fallait obéir. Mmh. Et le type ne réfléchissait pas, il dit il y avait le scientifique, il me disait d'électrocuter, j'électrocutais. Bon, si l'autre était mort, tant pis. Hein.
Ouais.
Mais justement, ce que Lacoste raconte, c'est que l'expérience de Milgram est quasiment toujours racontée à contresens.
Ouais, d'accord.
Comme une expérience faite sur la soumission, alors c'est une expérience qui est faite sur la résistance à la soumission, et comme une expérience qui aurait montré, on la présente souvent comme une expérience qui aurait montré que la plupart des gens obéissent, alors qu'il semble qu'elle ait montré que la plupart des gens ayant des ressources morales, culturel ou autre, ceux qui n'étaient résistaient, et que la plupart résistaient en fait. Et ici, cette expérience de Milgram, finalement, elle participe à cette mise en place de l'idée d'une humanité qui serait naturellement prompte à torturer ses semblables, à les massacrer. Donc je pense qu'on va faire.
Y compris si elle est cultivée, même peut-être d'autant plus. Quand elle est cultivée, en fait, c'est ça l'idée, en fait. C'est ça, c'est que à la limite plus on est dans le raffinement et dans la culture, et plus on est aussi, mais potentiellement enclin à torturer avec raffinement, en fait.
Ah oui, comme un chef, quoi. Alors, donc sur ces horreurs, on va peut-être passer à de la musique, histoire de vous reposer un petit peu.
Bah, qui adoucit les nerfs.
Donc voilà, je sais pas ce que José a décidé de passer pour vous oxyer les oreilles. Je vous le dirai après.
Ça va faire mal.
Je leur ai dit avant de sortir de prison que j'allais commettre des crimes. Je leur ai dit quel genre de crime je commettrais. Et ils n'ont pas voulu me croire. Ils m'ont dit que je sortirais, que je le veuille ou non. Et j'ai commencé à tuer le jour même où je suis sorti de prison.
Nouvelle qui te fait
Vous êtes toujours sur Jeudi Noir et sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, limite ni publicité. Donc Jeudi Noir s'intéresse aujourd'hui à deux livres. Le premier de Charlotte Lacoste qui s'appelle Séduction du bourreau, dont Michel est en train de nous entretenir. Ensuite, on vous parlera de mai 68. On vient, avant de reprendre la discussion, d'écouter un titre de Bad Lieutenant qui s'appelle Tueur Né. Et voilà. Donc, Michel, tu as commencé à nous parler un petit peu en détail de ce livre-là de Charlotte Lacoste, qui s'intéresse donc à toutes les romans, fictions ou littératures de témoignages qui adoptent le point de vue du bourreau pour nous parler de situations comme celle, bon, soit de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Tu disais que le livre de Lacoste était essentiellement ou assez largement construit contre le succès de Jonathan Little, Les Bienveillantes, qui avait été un gros succès d'édition et qui adoptait le point de vue d'un nazi cultivé, et qu'elle explique au fond que le trait commun de cette littérature consiste à nous présenter des bourreaux extrêmement sophistiqués, cultivés, qui d'une certaine manière tendent à développer l'idée qu'au fond finalement la cruauté, la barbarie sont finalement toujours en germe finalement en chacun d'entre nous, et y compris chez, peut-être même davantage selon cette littérature là, chez les plus cultivés ou les plus raffinés. La question qui me vient à la suite à ce que tu développais, c'était celle de savoir au fond quelle forme de littérature elle encourage finalement sur ce type de questions-là, et comment elle voit finalement sur des situations de ce type-là, des situations voilà, de torture ou de barbarie, finalement quel serait le point de vue littéraire qui serait d'après elle le plus juste.
Alors je ne suis pas sûr qu'elle... Elle cite un bouquin de Jean Norton Crue, qui s'intitule Témoins, où justement des acteurs, enfin des soldats de la Première Guerre mondiale, a essayé de réunir tous les meilleurs témoignages qu'ils pouvaient au sujet de la Première Guerre mondiale, en les comparant, tout ça. Et je pense pas qu'elle donne des bons points. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que c'est une charge assez violente contre un certain style de littérature à la mode actuellement, et que la littérature qu'elle... qu'elle préfère, en tout cas par rapport à ce genre de thème, c'est une littérature que tous ceux qui veulent s'informer connaissent. C'est-à-dire, voilà, si on veut parler des massacres de masse, ou si on veut s'informer sur les massacres de masse, savoir comment ça s'est produit, il ne faut pas lire Jonathan Little, il faut lire voilà, Primo Levi, Robert Antelme, des gens comme ça. Et de ce point de vue-là, justement, là où elle rebondit sur certains thèmes qui me sont familiers, c'est le fait que le vrai témoin, entre guillemets, ne se présente jamais comme quelqu'un d'extraordinaire au-dessus de la mêlée, au contraire du nazi cultivé qui, lui, surveille tout du haut de son œil d'aigle. Ça se présente comme un homme ordinaire, complètement ordinaire, le gars qui se retrouve voilà, dans un camp. Pas de chance, si on peut dire. Et donc cet homme ordinaire, lui, ensuite... Bah, il va se faire broyer par la machine, mais ça c'est le cas de la plupart, ce qui fait que le témoin se sent toujours coupable, parce que, enfin le témoin, celui qui peut le rescaper se sent toujours coupable, parce qu'il peut témoigner alors que tous les autres sont morts, et il n'a pas l'impression de mériter davantage que les autres de témoigner, tandis que le bourreau, lui, a toujours tendance à s'exonérer de ses crimes, c'est aussi une des grosses différences, c'est pour ça qu'elle ne pense pas que le bourreau soit un bon témoin, parce que le bourreau témoigne toujours à décharge, bon. Et le nazi de Jonathan Little ne fait pas autre chose. Donc il est excusé de ses crimes qui sont pourtant ignobles, mais on pourrait aussi ajouter, je pense, d'après ce qu'elle dit, qu'elle attend de la littérature, si une littérature doit parler du mal, finalement elle ne doit pas en faire quelque chose de biblique, quelque chose qui planerait sur l'homme comme une malédiction, mais elle doit plutôt, cette littérature doit plutôt essayer de comprendre l'apparition de ce mal en termes politiques, sociologiques et historiques. Alors elle cite comme ça des passages. Alors là, je ne vois pas qui elle cite. Ah, Jacques Vergès, tiens, intéressant. Voilà, Serial Pleader. Et donc, il pose une question, d'où vient cette malédiction qui nous pousse au crime? Déjà, il s'agit d'une malédiction, on est déjà dans la religion. Alors, on peut avancer quantité d'explications scientifiques, psychologiques, psychiatriques. On peut aussi s'en tenir à l'explication la plus consensuelle dans une société telle que la nôtre, de tradition chrétienne. Nos ancêtres séjournaient dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Pareil aux animaux, ils vivaient comblés, jusqu'au jour où, tentés par le malin, ils ont goûté aux fruits défendus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. et de là ont été chassés du paradis. Depuis ce jour, l'humanité vit sous le sceau du péché originel. Donc Vergès, qui s'y connaît en défense des monstres, explique le mal par le péché originel. Génial, on est content.
Et on retrouve exactement le lien que tu signalais tout à l'heure, justement, entre la culture la cruauté, d'une certaine manière, et le mal.
Ouais. Et alors, pareil, elle cite aussi autre chose du mémorial de Washington, la directrice de communication de ce mémorial. Le but ultime du musée, c'est une compréhension massive et générale. Nous ne parlons pas de ce que les Allemands ont fait aux Juifs, mais de ce que l'homme a fait à l'homme. Et là aussi, on dilue complètement tout ce qui peut être politique, tout ce qui peut être historique. Et on se, finalement, après, voilà, ce que l'homme a fait à l'homme, c'est à cause de quoi? À cause du péché originel, bien sûr. Et elle cite contre ça quelqu'un qui, je crois, a écrit La Question, publié Henri Alec, en Dité chez Minuit. Et lui, il dit quelque chose d'autre, beaucoup plus intéressant, à mon avis. Ce n'est pas le mal sommeillant en chacun, brusquement réveillé, qui transforme l'ange en bourreau et le brave bidasse en tortionnaire. Mais c'est la mise en condition morale et politique, dans le cadre du système colonial et de la guerre, qui pervertit toutes les valeurs et légitime le crime au nom de la défense de la civilisation. Alors, c'est qu'une citation, mais on est déjà, comment dire, on est déjà dans un autre registre en termes d'explication, je crois. Et à partir de là, on peut aussi, si on se place dans un système comme ça, dans une explication politique et historique, tout d'un coup, la légitimation du bourreau devient beaucoup plus faible.
Bien sûr.
Parce que on connaît des tas de gens, enfin on sait qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas accepté de devenir des bourreaux, qui ont même éventuellement résisté contre les bourreaux. Voilà, c'est pas une nécessité, tout simplement. C'est pas une espèce de nécessité anthropologique ou une malédiction divine qui nous tombe sur la tête. Ouais. Voilà, si on accepte d'obéir et de tuer des gens, c'est pour des raisons qui peuvent être précisées, mais pas au nom d'une antique malédiction qui aurait, on ne sait pas trop combien de temps.
Ouais. Ce qui fait que, en définitive, le fait d'adopter un point de vue effectivement religieux sur le mal dans le cadre de la littérature, c'est finalement de toute façon le plus sûr moyen de n'y rien comprendre au fond, puisque on s'interdit de réfléchir sur justement les mécanismes, les dispositifs, les logiques, les contraintes, etc., qui peuvent conduire.
Complètement.
Effectivement, peut-être chacun d'entre nous a ça, mais pas de manière.
Ce qui veut dire que l'argument que j'avais exposé au début, qui tendait à justifier la littérature des bourreaux, à savoir se demander est-ce que moi je n'aurais pas obéi si on m'avait demandé de tuer, et essayer de répondre à cette question en écrivant, mettons, un roman ou en lisant des témoignages de bourreaux pour s'interroger sur la part de mal qu'il y a en nous. Ben finalement, elle peut sembler séduisante au premier abord, parce que, évidemment, on n'est pas tous à se dire « moi je serai un héros et je résisterai à toutes les tentatives d'oppression ». Donc elle peut être tentante dans un premier temps, mais elle est peut-être, à mon avis, au bout du compte, elle est plus égarante qu'autre chose. C'est-à-dire, la question, c'est pas forcément « est-ce que j'obéirai ?», c'est « est-ce que je vis dans un monde qui essaie de me faire obéir à ce genre de choses ?» Et si oui, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc ça invite cette question qui invite à l'introspection, à la confession, à je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Faut peut-être pas la poser, il faut peut-être en poser une autre, savoir dans quel monde je vis. Et là, c'est plus l'introspection. Ça suppose de s'informer et éventuellement d'agir si on peut ou si on veut. Donc c'est pour ça que je pense que le bouquin de Charlotte Lacoste, même si le
Séduction du bourreau, donc.
Séduction du bourreau, même si il part vraiment de la littérature, je pense qu'il y a un intérêt politique aussi, assez important, pour se repérer un petit peu dans cette question philosophique, religieuse, qui nous hante un peu tous, la question du mal, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens méchants qui tuent les autres gens. Mais
c'est vrai que c'est très préoccupant.
C'est quand même très préoccupant, bah, surtout quand on fait partie des gens qui se sont tués. Mais même si là on est un peu à l'abri, nous, de petits studios où il fait chaud. Alors Jean-Mathias, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Charlotte Lacoste. Hein.
Bien.
Maintenant, vous pouvez trouver, c'est José le technicien qui m'a dit ça, l'homme du bouton rouge, vous pouvez trouver une interview d'elle qui dure 25 minutes sur, je crois, c'est France Inter, quelque chose comme ça. Sur YouTube, voilà, où elle est très très claire et elle expose un petit peu tout ça. Donc vous tapez, je crois, Charlotte Lacoste, Lacoste, L-A-C-O-S-T-E, et vous devriez trouver cette interview, et voilà, si vous avez envie de vous informer davantage. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à jeudinoir2012@gmail.com. Donc je vous répète l'adresse, jeudinoir2012@gmail.com. Voilà, et puis on essaiera de répondre au aux milliards de mails qu'on va recevoir.
Qu'on manquera pas de recevoir, oui.
Qu'on manquera pas de recevoir, voilà. Donc Jean-Mathias, tu pars sur... Ou on fait un intermède musical d'abord.
Oh, on peut faire un intermède musical. Et puis,
ok, espèce de feignant.
Et ensuite, on passe à mai 68.
D'accord, voilà, c'est ça. On reconnaît les feignants. Bon, José, musique. Donc voilà, José nous a fait une farce, il a passé un morceau absolument immonde, donc de l'Infanterie Sauvage.
Mais à propos.
Oui, à propos, un groupe de Oi, dont le chanteur a très mal fini. Donc voilà, c'est un morceau qui s'intitule Disco Holocaust. Bon, vous pourrez trouver tous ces morceaux sur un... Je ne sais pas s'il se trouve encore sur une compilation qui s'appelle Punk Riot, qui comprend 4 CD, 2 CD de musique de punk français, enfin de punk, là il y avait de la Oi, et 2 autres de punk plutôt anglo-saxonne. Compilation qui est globalement assez pertinente. Voilà, donc Jean-Mathias, tu voulais nous parler de mai 68, donc j'imagine que c'est pour nous dire que mai 68 n'est un mouvement qui n'a eu lieu que dans le 5e arrondissement et qui ne concernait que les étudiants.
C'est ce que je pense depuis longtemps, moi, donc je voulais effectivement confirmer ça. Non, bien sûr, c'est pas du tout le propos du livre dont je voulais parler aujourd'hui, qui est donc intitulé Mai 68 et ses vies ultérieures. C'est un livre de Christine Ross, qui est donc une universitaire américaine et qui enseigne la littérature comparée, l'université de New York. Alors le livre est pas récent, il est paru en français en 2005 déjà, puis il a été réédité chez Agone en 2010. Donc c'est pas récent, mais il me semble que il y a pas mal de choses intéressantes dans ce livre. Et puis pour faire un petit peu le lien avec la discussion qu'on avait précédemment, t'as parlé au fond d'une certaine manière en littérature finalement de dépolitiser les questions et de montrer comment certains auteurs par cette complaisance qui a adopté le point de vue du bourreau avaient tendance à occulter finalement toutes les analyses politiques qu'on peut faire hein, des pages noires de l'histoire. Ici, alors bon, c'est pas du tout évidemment le même sujet, mais ce qui intéresse Christine Ross dans ce livre-là, c'est aussi toutes les manières dont on a pu essayer de dépolitiser précisément le mai 68, d'où le titre hein, qu'elle choisit, mai 68 et ses vies ultérieures. Elle indique dès l'intro qu'au fond, le projet de son livre, c'est d'essayer de montrer comment au fond cet événement a développé une certaine mémoire et surtout beaucoup d'oubli par la suite.
C'est-à-dire, si je me souviens bien, qu'elle cherche pas à faire l'histoire de mai 68, c'est pas un livre de plus sur l'histoire de mai 68, mais elle cherche plutôt à comprendre l'histoire qui a été faite de mai 68.
C'est ça. Son idée, c'est d'essayer de montrer comment finalement tous les récits qui ont été construits finalement a posteriori sur mai 68 ont tous finalement, par des voix différentes et parfois d'ailleurs même apparemment opposées, hein, que ce soit donc de la droite ou qui est venu de la droite ou de la gauche, comment finalement tous ces récits donc a posteriori ont tendu à occulter la dimension politique de mai 68. Et ben, pour dire les choses clairement, ce qu'elle vise et ce qu'elle cherche à démonter, c'est la manière, en fait, toute l'interprétation qui a été faite de mai 68 en termes de révolte générationnelle. Et la manière dont, effectivement, on a rapporté cet événement-là à, finalement, une sorte de, voilà, de surgissement d'une génération, les enfants du baby-boom, qui, finalement, se sont révoltés voilà, à un moment donné contre les raideurs culturels de la société française. Et donc, qu'on soit dans le générationnel ou dans la pseudo-histoire culturelle, ce qui manque, évidemment, dans ces récits-là, c'est toute la dimension politique. À savoir ce qu'elle définit elle comme une espèce de projet. Alors c'est formulé de manière un peu abstraite, mais finalement on comprend ce que ça veut dire. La portée politique de mai 68 pour elle, c'est au fond la construction d'une forme de sujet politique, donc chez les participants, hein, de mai, de sujets politiques qui finalement ont cherché à mettre au cœur de la vie sociale la question de l'égalité. Et ce faisant, a bouleversé finalement toutes les représentations traditionnelles qu'on se fait de la société en termes de classe sociale, de catégorie, avec des étudiants d'un côté, des ouvriers de l'autre, des paysans sur leur tracteur et des experts qui savent pour les autres. Et au fond, d'après elle, ce qui a explosé au cours de mai 68, c'est toute cette représentation assez habituelle de classification finalement des différents sujets sociaux, et c'est ça qui a été remis en question par mai 68, notamment mais par l'articulation qu'effectivement une des marqueurs de mai 68, c'est-à-dire l'articulation entre la révolte étudiante et des milieux intellectuels, on va dire, pour faire vite, et un mouvement de grève générale dans le monde du travail massif, le plus massif que la France ait jamais connu, elle le rappelle quand même. Et c'est cette articulation des deux qui fait que précisément, d'après elle, c'est cette question de l'égalité qui a été posée et qui est propos qui est rendu, selon elle, complètement inaudible par tous les récits qui ont été faits après.
Oui, c'est sûr que si ceux qui font le récit de mai 68 sont les Serge Julie et compagnie, ils ont intérêt à transformer la révolte de mai 68 en une espèce de petit truc inoffensif et culturel qui peut ensuite permettre à Libération de vivre justement sur un pseudo-capital révolutionnaire en art sans jamais s'occuper de ce qu'il pourrait y avoir de radical en politique.
Ils ont intérêt à le faire, pas simplement intérêt, et puis son idée, si tu veux, c'est qu'en fait, il y a finalement la reprise d'un discours... du discours classique, quoi, du discours ordinaire qu'on fait sur le corps social, qui est un discours d'expert, qui consiste effectivement à classer chacun dans sa petite case, et qui permet ensuite de faire des théories là-dessus pour expliquer, voilà, comment se forment les classes sociales, les catégories, qu'est-ce que veulent les gens de telle catégorie, à quoi ils aspirent, quelles sont leurs trajectoires, etc. Donc de ranger finalement chacun à sa place. Et la manière finalement de comment dire, il y a quelque chose aussi qui va avec cette remise en ordre en quelque sorte postérieure à mai 68, remise en ordre dans les récits et dans les interprétations qui ont été faites, qui selon elle va plus loin parce qu'elle croit déceler en fait une sorte de nouvelle manière de faire de l'histoire qui s'est mise en place finalement au cours des années 80. Autour de ce concept de génération finalement, et qui a consisté finalement à lire des conflits qui avaient des cibles parfaitement explicites en mai 68. Les cibles, elles sont, elle les rappelle, c'est le capitalisme, l'impérialisme, le gaullisme, c'est dit, c'est explicite, et il s'agit évidemment de gommer ces cibles là en faisant donc une espèce de lutte de génération qui devient en fait une clé pour comprendre finalement n'importe quel conflit en histoire. C'est-à-dire que finalement, ce qui va rendre compréhensible, voilà, les antagonismes ou des mouvements, fût-ils de grève massive comme en mai 68, ça va être ça, cette opposition des jeunes et des vieux. Ce qui a un côté rassurant, c'est qu'évidemment, le jeunesse se passe, donc ça ne dure pas, bien entendu. Et puis, ça permet de renvoyer évidemment toutes les questions politiques aux oubliettes, puisque on en fait une question qui est pratiquement de nature biologique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une espèce de d'explosion hormonale en mai 68, qui est partagée, alors ça c'est un point que particulièrement intéressant chez elle, qui est partagée à la fois par des sociologues estampillés à droite de manière notoire comme Raymond Aron, qui sur le moment, dans les pages du Figaro, est outré par cette espèce de décharge hormonale générale, qui a des phrases absolument stupéfiantes, enfin effectivement quand on les relit avec le recul, qui explique qu'au fond, bah oui, les jeunes se heurtent finalement au cadre de leurs aînés, un peu comme les rats. Il le dit tel quel, un peu comme les rats lorsqu'ils sont en surnombre ou en surpopulation sur un espace restreint. Et au fond, c'est ça la réaction du grand sociologue Raymond Aron à mai 68, au moment où le mouvement se développe. C'est finalement quelque chose qui relève voilà, du chahut des rats dans le laboratoire. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est bon, à la fois effrayant et en même temps finalement pas si surprenant de la part d'un tenant de l'ordre gaulliste, etc. Bon. Mais ce que Christine Ross montre aussi, c'est qu'il y a toute une part de ceux qui ont interprété et qui ont construit le récit sur 68 après tout ce qu'on a, en tant qu'acteurs hein, de ce moment-là. Donc les Julie dont tu parlais, les Cohn-Bendit, et en particulier chez une espèce de, c'est un peu le gauchiste maudit, hein, c'est la figure de Pierre Goldman, qui finalement, au même moment que Aron, emploie à peu près les mêmes termes. C'est-à-dire, effectivement, à des expressions dans lesquelles il explique que finalement, c'est une révolte d'étudiants à peine post-pubères, et que tout ça va nous amener nulle part, que c'est la grande fête hormonale, et que tout ça, c'est pas sérieux, quoi. Tout ça, c'est pas sérieux. Et ce qui intéresse Christine Ross, c'est la manière dont finalement, l'un comme l'autre, c'est-à-dire Aron comme Goldman, le grand sociologue gaulliste du Collège de France, et puis le guévariste qu'on connaît, développe finalement un même aveuglement finalement sur ce qui fait la signification politique et puis l'intérêt bien évidemment selon elle de 68.
Tout ramener à la question des jeunes et des vieux, c'est bien commode, mais c'est vrai que ça naturalise le débat. Pour le coup, une fois de plus, on évacue l'histoire.
Absolument. Absolument.
Parce que c'est une lutte éternelle des vieux contre les jeunes, et comme tu dis, c'est très très rassurant, parce qu'en gros, les vieux d'hier sont les révoltés d'hier, et les jeunes révoltés d'aujourd'hui sont les vieux établis de demain.
Exactement.
Donc en gros, la révolte sera une espèce de crise d'adolescence.
Tout à fait.
Donc qu'il ne faut pas craindre, parce qu'elle ne mène à rien. Sinon, à des positions de pouvoir un peu plus affirmées, au nom justement de son passé de révolté.
Absolument. Et alors effectivement, de ce point de vue-là, il y a eu pléthore de témoignages, de littérature pour les diverses commémorations de mai 68 qui ont complètement embrayé, si tu veux, sur cette interprétation-là. Bon, alors il y a évidemment les deux tomes de Génération qui sont parus en 88, donc pour les 20 ans, il me semble. Et où avant, il y a aussi ce fameux recueil d'entretiens de Cohn-Bendit qui s'appelle « Nous l'avons tant aimé la Révolution », où finalement, il fait ses adieux en tant que post-pubère confirmé cette fois-ci aux idéaux adolescents qui l'avaient amené à foutre un peu le souk dans les rues parisiennes. Et donc, ce qui l'intéresse au fond, c'est la manière dont se met en place ce modèle-là, ce modèle. Et c'est quelque chose qui me paraît moins intéressant parce que c'est quelque chose dont on soupe encore assez largement aujourd'hui, il me semble, parce que effectivement, ces gens-là sont ont acquis après des positions de pouvoir dans les médias, en politique ou ailleurs. Hein, je veux dire, Daniel Cohn-Bendit, on en entend régulièrement parler. Bon, il s'agit pas de flinguer Daniel Cohn-Bendit pour flinguer Daniel Cohn-Bendit, mais peut le faire aussi, mais sur l'interprétation et sur le rôle que tous ces gens ont joué dans cette locutation de mai 68, il me semble qu'elle vise assez juste. C'est pas ses seules cibles, hein, c'est-à-dire qu'elle développe aussi des analyses intéressantes sur la manière dont ceux qu'on a appelés les nouveaux philosophes donc début des années 80, fin des années 70, début des années 80, recruté assez largement dans les rangs d'anciens 68ards, d'anciens chefs 68ards, notamment d'ex-Mao, donc comme Glucksmann, Bruckner, ou évidemment Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le citer, qui n'était pas Mao, mais qui s'inscrit effectivement dans ce courant-là. La manière dont finalement ces auteurs ont mis au cœur de leurs travaux et puis de leur pseudo-réflexion politique le concept de pouvoir, avec finalement ce qu'elle interprète, elle, comme une espèce de manière de réfléchir sur l'échec de mai 68 comme un échec de la prise de pouvoir.
Non mais eux, ils n'avaient pas besoin de prendre au sérieux le concept de pouvoir, parce qu'ils l'ont pris dans l'édition. Donc,
bien sûr.
Et c'était l'objet essentiel de toute leur manœuvre littéraire, journalistique et autres.
C'est peut-être lié à ce qu'elle raconte, c'est-à-dire qu'elle explique que finalement cette espèce d'obsession sur le autour du concept de pouvoir, alors après avec des choses qui ne sont pas toutes fondamentalement inintéressantes, sur les analyses du totalitarisme, etc. Mais le fait de centrer la question sur le pouvoir, c'est pour elle une autre manière d'esquiver toujours cette question qu'elle estime, elle, centrale pour comprendre ce qui s'est passé en mai 68, à savoir la question d'une égalité affirmée et vécue, en quelque sorte, pendant cette période de suspension, voilà, des codes et des catégories sociales traditionnelles. Alors, voilà, égalité vécue entre des étudiants, des ouvriers, des paysans, et qui a pour conséquence que le pays et le système de production et la vie intellectuelle et l'ensemble du pays s'arrêtent. Voilà. Et c'est finalement pour comprendre ce moment-là, qui est quelque chose de parfaitement inouï, y compris du point de vue historique. Elle propose, elle, effectivement, de réfléchir là-dessus. Et comme tu le disais au début de ta présentation, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire très savante sur mai 68. Elle s'appuie beaucoup sur des témoignages. Pour le coup, tu parlais témoignages tout à l'heure. Mais là, c'est une manière aussi de faire de l'histoire à partir des témoignages pour essayer de justement rendre... rendre la parole, c'est un peu pesant de dire ça, mais pour donner la parole, en tout cas, ou pour mettre en avant ces témoignages, pour essayer de comprendre au plus près le type d'expérience qui a été vécue par les acteurs de 68, qui n'ont pas forcément, après, construit de récits héroïques ou autres, comme ceux dont tu parlais un peu tout à l'heure.
Parce que la grande majorité des 68ards étaient des gens tout à fait ordinaires, qui n'ont pas accédé au podium de libération de la politique ou des ministères. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc Jean-Mathias, tu voulais aussi parler d'article 11.
Oui, alors juste pour terminer sur ce livre-là, oui, parce que c'est je le recommande vraiment pour ce qu'il nous apprend, donc effectivement sur la postérité et l'occultation de 68. Pour ce qu'il ouvre comme piste aussi pour comprendre, juste le signal des périodisations nouvelles aussi pour les historiens, donc ça c'est des choses intéressantes. Et je voulais effectivement terminer sur le dernier numéro de la revue Article 11, revue qui est maintenant éditée sur papier depuis près d'un an, après avoir été éditée en ligne sur un excellent site internet du même nom.
Article 11, donc.
Article 11, voilà. Donc, ça coûte 2,50 €. Là, je vous parle du numéro de février-mars 2012.
Donc, c'est un bimestriel.
C'est un bimestriel, on peut dire ça comme ça. Et vous trouverez donc dans cette revue, alors notamment un entretien très intéressant avec Arlette Farge, qui fait partie finalement des gens, ça me fait un lien avec ce que je racontais précédemment, qui fait partie des gens qui ont essayé après 68 de ne pas rentrer dans des espèces de discours héroïques ou occultants sur l'événement, et qui ont essayé de s'intéresser justement aux témoignages au plus près, au vécu, à la sensibilité qui n'est pas forcément l'objet d'études des historiens habituellement. Donc un très bon article d'Arlette Farge sur la mise en place du pouvoir médical à la fin du XVIIIe siècle. Beaucoup de choses très intéressantes. Vous avez aussi un entretien sur la naissance et puis le déclin du mouvement du mouvement des free parties. Des témoignages sur aussi un immigrant sans papier, Keïta, là, qui parcourt un petit peu les routes de la forteresse Europe. Tout un tas de choses intéressantes avec un format et puis une maquette originale et beaucoup de contenu, donc je vous recommande vivement.
Donc nous arrivons là au terme de Jeudi Noir, avec donc Jean-Mathias, José à la technique et Michel. Nous vous retrouverons dans 2 semaines, voilà, comme toujours maintenant, j'espère. Et puis avec d'autres livres, ou peut-être un auteur, si on arrive à en trouver un qui accepte de se déplacer par ici. Voilà, donc on va vous laisser avec un morceau de Matching Mole, qui est un groupe un peu dérivé de Soft Machine. Donc après ce monde de brut, on a choisi un morceau un petit peu guimauve.
De douceur.
Et de douceur, voilà. Et voilà, j'aime beaucoup, ça s'appelle Caroline. Voilà, donc avec à la batterie
la mère de
Mike Wyatt.
La mère de
Michel. Non, pas Mike Wyatt, je confonds avec le bassiste d'un autre groupe. Hein, enfin, ouais. Robert Wyatt.
La mère de Michel s'appelle Caroline.
Il raconte n'importe quoi. Ne l'écoutez pas. José, musique.
Some passing fad, and if my